RCF. L'invité de la matinale, Grégoire Gindre.
Grégoire, votre invité ce matin est Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur.
Bonjour Camille Chaise.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Des établissements scolaires français visés par des menaces terroristes. La Russie touchée en plein cœur aussi vendredi. Au moins 137 personnes ont perdu la vie sous les balles des terroristes islamistes. Le dispositif Vigipirate est à son niveau maximal. Urgence, attentat. Camille Chaise, devons-nous craindre pour notre sécurité sur le sol français ?
Ce que l'on veut surtout, c'est qu'on mette tous les moyens et toute la mobilisation nécessaire pour éviter des passages à l'acte, des attentats. Comme vous l'avez dit, on a un climat sécuritaire très élevé, mais il y a différents types de menaces. On voit bien que ce qui s'est passé dans les établissements scolaires, c'est extrêmement anxiogène, mais on est plutôt sur quelque chose qui ressemble à de l'usurpation de comptes et de l'utilisation d'éléments numériques qui peut-être mériteraient d'être davantage sécurisés. Mais on voit bien qu'on veut créer de la terreur, créer de l'angoisse. En revanche, ce qui s'est passé en Russie et les risques d'attentats projetés dont le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre ont parlé hier, sont un autre type de menace. Donc je pense qu'il faut en toute chose être extrêmement pragmatique, prendre les sujets un par un, les menaces une par une et trouver les moyens les plus adaptés. Et le rehaussement du niveau de Vigipirate, c'est cela, c'est nous donner tous les moyens, les moyens humains, les moyens techniques pour avoir le panel de mesures à notre disposition. Je dirais pas qu'on est inquiet. Nos services de renseignement, on le sait, ils travaillent dans l'ombre, mais de manière extrêmement approfondie. Je dirais pas qu'on est inquiet. On veut avoir tous les moyens à notre disposition pour agir, et c'est le cas avec les nouvelles mesures qui ont été prises.
Votre objectif est de rassurer aussi, donc avec 4000 militaires en alerte. Le risque n'est-il pas justement d'effrayer un peu tout le monde, quand même, que l'angoisse liée au terrorisme soit de retour avec cette élévation du niveau urgence attentat?
Les mesures Vigipirate urgence attentat, c'est aussi de faire prendre conscience à chacun qu'il y a un risque élevé. Et chaque citoyen a un rôle à jouer, en fait. On s'en rend peut-être pas compte, mais signaler un objet abandonné, avoir une vigilance s'il y a des signes séparatistes d'une personne dont on ne sait pas si elle est soumise à du prosélytisme ou si elle est en train de se dissocier finalement du reste de la société. Pour tout cela, il existe des dispositifs. Appeler les services de police, téléphoner au numéro vert Stop Djihadisme pour savoir quelle conduite à tenir. La vigilance des citoyens, elle est importante.
Si l'on déjoue des attentats, comme le ministre de l'Intérieur ou même le Premier ministre l'a rappelé hier, toutes les semaines même, ça veut dire que le risque, il est réel?
Alors le risque, il est réel. On a deux types de risques, hein. Le risque endogène avec notamment l'autoradicalisation sur les réseaux sociaux, avec des risques de passage à l'acte.
Individu isolé
déjà présent sur notre territoire, français ou étranger d'ailleurs, hein, peu importe dans notre traitement par les services de renseignement. Et puis, et là c'est assez nouveau depuis plusieurs mois maintenant, ce risque de retour finalement d'une menace projetée, d'une menace exogène qui viendrait d'autres pays, avec des groupes ou des individus qui pourraient vouloir venir sur notre territoire.
D'Afghanistan notamment,
D'Afghanistan, de Syrie ou d'autres pays. Et c'est ce retour des groupes projetés qui a fait aussi qu'on a réélevé le niveau Vigipirate. Quand on voit à quel point ils sont capables de commettre l'irréparable en Russie, et quand on a quelques éléments d'information pour notre pays, mais d'autres pays européens aussi, on parle de l'Allemagne, des Pays-Bas, c'est la raison pour laquelle le niveau a été réélevé.
Gérald Darmanin a confirmé les propos d'Emmanuel Macron hier, 14 projets d'attentats déjoués depuis 2020. On parle de où, de quand et par qui ces projets d'attentats?
Alors je ne peux pas vous donner tous les éléments, la plupart sont judiciarisés, donc il y a des enquêtes judiciaires en cours.
Marché de Strasbourg, on en a entendu parler?
Effectivement, fin 2022, on en a parlé, le marché de Strasbourg, ça peut être des cibles culturelles. On sait que tous les rassemblements festifs sont aussi des lieux qui peuvent, parce qu'ils représentent nos modes de vie, être la cible de ces attentats. Donc effectivement, des attentats déjoués, il faut savoir que nos services de renseignement depuis 2015, ils ont un cadre légal fort avec la possibilité d'utiliser des techniques de renseignement intrusives, que ce soit par exemple des écoutes, des suivis de groupe avec des différentes systèmes techniques. Tous ces éléments sont désormais partagés aussi entre les services de renseignement. On travaille beaucoup moins qu'avant en tuyau d'orgue pour vraiment partager et déployer tous les moyens nécessaires pour lutter contre, contre le terrorisme.
La plus grande crainte, la plus grande menace aujourd'hui, c'est l'État islamique. Est-ce que tout simplement l'État islamique peut-il frapper de nouveau sur le sol français ?
Je pense vraiment qu'il y a les deux types de menaces à prendre en compte. La menace endogène, l'autoradicalisation, une personne qui... avec aussi des ressorts psychologiques, voire psychiatriques particuliers autour de ces individus isolés qui un jour se lèveraient en disant « c'est aujourd'hui, je veux commettre l'irréparable » et qui, on le voit tous, peut avoir des moyens très facilement utilisables à sa disposition. Donc ça c'est un vrai type de risque et pour ce faire, c'est là où je vous dis qu'il faut de la vigilance accrue de chacun, il ne faut pas hésiter à appeler les services de police si on voit des comportements inadaptés, etc. Et puis cette menace projetée qui, je vous le dis, est nouvelle depuis quelques mois, ce risque de menace projetée qui fait que là, la DGSE, la DGSI, les liens aussi avec les autres services de renseignement étrangers sont extrêmement importants et ce partage d'informations, je pense que c'est ça qui a changé depuis ces dernières années au sein de la France et aussi avec nos partenaires étrangers. On voit souvent que c'est un renseignement étranger qui va nous permettre d'agir.
Les établissements scolaires sont aussi la cible de menaces d'attentats depuis plusieurs jours. On parle de 130 écoles, collèges, lycées. Comment être certain de la bonne sécurité, des sécurisations de nos établissements ? Comment, en quelque sorte, éviter un deuxième Samuel Paty ou Dominique Bernard ?
Avec la communauté éducative et l'éducation nationale, on a vraiment fait un travail de fond ces dernières années. On s'est vraiment rapprochés. Moi qui étais sur le terrain il y a une dizaine d'années, on parlait assez peu avec les proviseurs. C'était un peu deux mondes, la police et l'éducation nationale. Aujourd'hui, on est vraiment deux partenaires. On se connaît. Il y a des référents établissements scolaires dans tous les commissariats, toutes les brigades de gendarmerie. Donc les liens, ils sont proches.
Et pourtant, il y a encore des attentats, malheureusement.
Les liens sont proches parce qu'on veut vraiment que les professeurs, les CPE, les chefs d'établissement nous signalent tout ce qui leur paraît anormal. Alors ça peut être le harcèlement, on en parle beaucoup, mais ça peut être aussi des risques de bagarres, de rixes entre différents élèves qui peuvent des fois être vraiment problématiques. Et puis tous les signaux faibles qui laisseraient penser qu'il peut y avoir des difficultés au sein de certaines familles de l'ordre du séparatisme. Et c'est là où ce lien de confiance il est extrêmement important pour rapidement nous faire notre travail de renseignement et judiciaire. Donc ça, c'est la première chose, ces liens renforcés. La deuxième chose, c'est que l'éducation nationale elle-même s'est dotée d'unités de sécurité, les équipes mobiles de sécurité qui peuvent agir dans les établissements. Un travail de fond a été fait.
La France, justement, on continue. La France accueille dans un peu plus de 100 jours l'événement le plus suivi de la planète, les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Là aussi, on sera prêt à faire face à toute éventualité, dont une attaque terroriste. On se rappelle quand même que le gouvernement a revu ses jauges pour la cérémonie d'ouverture, 326 000, on était parti sur 600 000. Ça veut dire qu'il y a aussi un risque là, le gouvernement craint une menace d'attentat ou en tout cas même un attentat.
Alors les JO pour le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, ça commence même avant, avec l'arrivée de la flamme à Marseille le 8 mai et le relais de la flamme qui va traverser 66 départements.
Comment être sûr de cette sécurisation ? Ça va rassembler tous ces événements.
Donc nous, la sécurisation, elle va prendre plusieurs formes. On a plusieurs risques en fait sur lesquels on travaille. C'est bien sûr le risque de terrorisme. On a pris un cadre législatif particulier qui permet de mettre en place des périmètres de sécurité qu'on appelle SILT, du nom de la loi qui a été prise en 2017, qui permet, je vous le fais court et un peu schématique, mais que toutes les personnes qui rentrent à l'intérieur de ce périmètre de sécurité soient criblées, fassent l'objet d'une enquête administrative de sécurité. Donc on estime qu'il y aura environ 1 million d'enquêtes de sécurité pour toutes les personnes qui vont rentrer dans ces périmètres, qui sont en gros les enceintes sportives, mais de manière un petit peu élargie. Partout où il y aura un rassemblement important de personnes, il y aura ces criblages qui seront faits. Ces enquêtes de sécurité, concrètement, on va passer dans tous nos fichiers de renseignement judiciaire, ces identités de personnes françaises, étrangères. Ça peut être les joueurs, ça peut être les athlètes, pardon, le staff, les journalistes, toutes les personnes, la restauration collective, toutes les personnes qui rentrent dans ces périmètres. Et en fonction de ce qui va ressortir dans les fichiers, on pourra prendre la décision de ne pas permettre l'entrée dans ces
Et pour la cérémonie d'ouverture, c'est impossible.
Et la cérémonie d'ouverture, c'est aussi ce qui va se passer. C'est aussi pour ça qu'on passe par des tiers de confiance, qu'une partie des billets va être donnée par l'intermédiaire de l'État, des collectivités territoriales, la mairie de Paris, des fédérations. Ça nous permet très tôt d'avoir les identités des personnes qui vont rentrer dans les périmètres et donc de faire ce travail de criblage qui est très important. Donc ça, c'est le risque terrorisme, mais on sait que c'est pas le seul. Il y a le risque cyber qui est pris en compte. Ça peut venir vraiment désorganiser quelque chose. Par exemple, si sur un stade, on a une attaque cyber qui fait que, je sais pas, les portes du stade restent fermées, par exemple, on voit que ça provoque concrètement un problème immédiat d'organisation. Et puis, la dernière attention qui est majeure pour nous, c'est ce qu'on appelle la gestion des flux, donc faire en sorte que les touristes, les spectateurs puissent transiter sans encombre d'un endroit à l'autre, par le biais des transports en commun aussi, et qu'il n'y ait pas de mouvement de foule. On sait que ça peut entraîner des drames, on l'a vu par le passé dans différentes enceintes sportives. Donc c'est peut-être ces trois risques qu'on prend en compte, et c'est pour ça qu'on est tous mobilisés pendant cet été.
Toute autre chose, Camille Chaise, les atteintes à caractère raciste et xénophobe ou anti-religieuse ont augmenté en 2023. 8500 crimes ou délits l'année dernière, plus 32% par rapport à 2022. Comment expliquer ces chiffres ?
Je pense qu'il y a une double explication. Comme souvent avec les chiffres, on peut les lire de différentes manières. La première manière, c'est que ces infractions augmentent.
On ne sait pas les contrôler, surtout. On arrive à, si ça augmente, c'est qu'on n'arrive pas à les contrôler.
Moi, j'ai une double lecture. Ça augmente, mais aussi on les déclare davantage. C'est-à-dire qu'on a plus ce réflexe de dire que c'est inacceptable, qu'une atteinte raciste, qu'une injure raciste est devenue inacceptable aujourd'hui en société. On le voit dans les enquêtes de victimisation. Passé un temps, les personnes n'allaient pas systématiquement déposer plainte ou ne faisaient pas de démarches. Finalement, intérioriser le fait qu'il y avait une atteinte xénophobe ou raciste. Aujourd'hui, sociétalement, on sait que c'est inacceptable et on le dénonce davantage. Ça, c'est le point positif. En revanche, effectivement, dans les chiffres, cela augmente. La difficulté, elle est réelle de lutter contre ces atteintes qui sont en majorité des insultes, des injures, soit dans la vie réelle, soit sur les réseaux sociaux. Et c'est peut-être là-dessus que je pense qu'on est en train de faire un gros travail de fond. On a au sein de la police judiciaire un service qui s'appelle Pharos, où on peut signaler en ligne les atteintes racistes, xénophobes sur les réseaux sociaux. Elle reçoit en gros 5000 signalements par semaine, c'est énorme. Et ces atteintes sont davantage prises en compte que...
Le communiqué que vous avez envoyé, justement, il parle d'atteintes à caractère raciste, xénophobe ou antireligieuse, mais il n'y a pas de détail des chiffres des atteintes à caractère antireligieuse. Pourquoi ? Est-ce qu'on a le détail de ces chiffres ?
Alors, nos services statistiques ne vont pas toujours dans le détail de ces éléments. C'est des choses qui s'affinent au fur et à mesure. En revanche, on a ce travail beaucoup plus fin sur les atteintes anti-chrétiennes. Mais pas sur les...
En 2023, on a des chiffres pour les atteintes antichrétiennes, par exemple ?
On a des chiffres sur les actes antichrétiens. Alors, il y en a un petit peu moins de 1000. À 90%, ce sont des atteintes contre les biens, les cimetières, les églises. Mais il y a quand même 10% de ces 1000 atteintes, soit un peu moins d'une centaine, qui sont qui ont une réalité à l'encontre des personnes. Donc des atteintes aux personnes ou des insultes contre les personnes. Donc ça fait, je crois, de mémoire, 84 atteintes enregistrées en 2023. C'est quand même conséquent. Donc voilà, je pense qu'on est en train d'affiner ces données parce qu'on le sait bien, les chiffres, c'est quand même la base pour construire une réponse. Si on n'arrive pas à mesurer un phénomène, c'est toujours compliqué de lutter contre.
Et justement, les chrétiens vivent cette semaine la Semaine Sainte, moment très important du calendrier liturgique, des messes, des processions au programme. Est-ce qu'il y aura aussi un renforcement de la sécurité autour des édifices, autour de ces processions ?
Alors oui, bien sûr, c'est le cas tous les ans, mais encore plus cette année avec le niveau Vigipirate renforcé qui permet davantage de moyens. Il y aura au moins 10 000 policiers et gendarmes pour faire ce qu'on appelle des rondes et patrouilles, donc qui seront à proximité des moments importants, que ce soit des processions, des messes. On demande aussi aux chefs de la police et de la gendarmerie de prendre contact avec les responsables des différents sites, des différentes églises, pour savoir les différents horaires, le nombre de personnes attendues et pour calibrer les dispositifs aussi en fonction des souhaits des différents responsables. Donc c'est quelque chose qu'on fait globalement à chaque moment fort, et pour Noël,
année,
pour Pâques, mais cette année encore plus, notamment pour tout ce qui se passe sur la voie publique à l'extérieur. Les dispositifs Sentinelles seront aussi en renfort auprès de nous pour ce faire.
Merci beaucoup Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, d'être venue sur notre antenne en studio ce matin pour parler de la menace terroriste en France, mais aussi de cette semaine sainte, un moment très important du calendrier liturgique et de cette sécurisation autour des édifices religieux et autour des processions. Cet entretien est à réentendre sur notre site internet rcf.fr, mais aussi sur toutes les plateformes.